posions hier la question suivante. La canicule dans le sud de l'Europe vous inquiète-t-elle? Alors Lise, quelle est la pensée de nos auditeurs?
Alors je pense que c'est parce qu'il ne faisait pas très beau en Belgique que nos auditeurs n'ont pas l'air si inquiets que ça, Blaise, parce que peut-être ils se sentent moins concernés que si c'était en France ou ailleurs. Puisque sur Twitter, on est à 50-50. Hein. Ensuite, sur Facebook, on est à 56% de oui, un petit peu quand même, 44% de non. Et sur Insta, 59% de oui, 41% de non. Donc, on a quand même une majorité de oui, mais je vois qu'elle n'est pas, on va dire, unanime. On va demander son avis à notre invité. Alors, Jonathan Eckenbaum, directeur de Greenpeace Israël, est-ce que vous, cette canicule en Europe, elle vous inquiète?
Alors, je ne sais pas si inquiéter, c'est le mot, parce que finalement, c'est le genre d'événement dont je sais auquel on fait face suite au dérèglement climatique. Donc, c'est la nouvelle réalité. Donc, voilà, donc je ne dirais pas que je suis inquiet, parce que simplement, ça fait déjà des années, de très nombreuses années, que l'on sait à quoi s'attendre et que l'on sait exactement le cours de cette évolution. C'est-à-dire qu'on va vers des vagues de chaleur de plus en plus longues, de plus en plus prononcées, de plus en plus lourdes. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est né, en fait, comme moi, il y a à peu près une petite cinquantaine d'années, vivra au cours de sa vie quatre événements climatiques extrêmes, et quelqu'un qui naît aujourd'hui en vivra au moins une vingtaine. Je parle d'événements de l'ordre de cette canicule qui frappe non seulement l'Europe, mais l'Amérique du Nord, l'ensemble de l'Asie, Israël bien sûr, mais tout petit point sur la carte.
Alors c'est vrai que là on attend des records de température, 48 degrés en Sicile quand même, et les incendies en Grèce où justement Israël est allé aider les Grecs à passer ce mauvais pas.
Oui, alors il y a une, ce qui se passe, c'est que c'est pas seulement une vague de chaleur isolée, c'est qu'il y a une très très longue vague de chaleur. Et dans l'ensemble, on a aussi affaire à des hivers qui sont moins froids, donc, et des dérèglements aussi dans les précipitations. Donc les sols sont dans l'ensemble plus secs, et ça c'est très propice à des, à des incendies, notamment à des méga-incendies. Alors, ceux qui sont très inquiets, ce sont les pompiers. Alors, les pompiers sont très inquiets, la communauté des pompiers dans le monde entier, particulièrement dans ces zones qui s'assèchent beaucoup. Et bien sûr, ils y font face, ils savent qu'on est rentré dans une nouvelle période. Et voilà, je tiens à dire quand même, cette vague de chaleur, c'est une vague de chaleur, c'est un événement sans précédent, c'est un événement planétaire. On parle de tout l'hémisphère nord qui est frappé par une immense vague de chaleur. L'année dernière, la Chine avait été frappée par une vague de chaleur absolument ahurissante qui a duré des semaines. Voilà, donc ce qui est assez frappant cette fois-ci, c'est la longueur et particulièrement l'ampleur. C'est le fait que c'est l'ensemble de l'hémisphère nord qui est, ou différents points dans l'hémisphère nord qui sont frappés. On peut parler aussi des États-Unis, la situation aux États-Unis est absolument dramatique par rapport à ça.
C'est vrai, Phoenix, record battu, température la pire depuis 49 ans, feu au Canada. Donc effectivement, c'est dans le monde entier, alerte au Japon, record en Chine, enfin c'est vraiment partout. Et ça, ça avait été prévu, Jonathan, que ça soit à ce point-là.
Oui, alors absolument. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est, vous savez, vraiment pour très 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 brièvement, mais il y a à peu près 200 ans, suite aux travaux du physicien français Fourier, Joseph Fourier, on a compris qu'il existait un mécanisme qui s'appelle l'effet de serre. Et grâce à cet effet de serre, eh bien, finalement, la vie est possible sur Terre. Et il y a à peu près 130 ans, un chimiste suédois, Arrhenius, a compris l'impact de la combustion de charbon et de gaz et de pétrole sur cet effet de serre, qu'en fait en brûlant ces combustibles, on libère des quantités énormes de dioxyde de carbone qui augmentent l'effet de serre. Donc ça, on a compris ça. Et puis après, ça fait déjà une bonne soixantaine d'années qu'il y a des premiers modèles qui ont été faits. Et notamment, on a compris cette chose simple, c'est que plus on ajoutait de la chaleur à la Terre suite à l'augmentation de l'effet de serre, plus on augmentait l'évaporation des océans, parce que l'essentiel de la chaleur, plus de 90% est capté par les océans. Et l'augmentation de l'évaporation est propice au développement de plus de vagues de chaleur et en fait nous fait passer d'une situation de simple réchauffement à l'événement dans lequel on est, qui est vraiment une situation de dérèglement climatique. Donc c'était prévu déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, avec au fur et à mesure des années, le GIEC, qui est l'instance de l'ONU qui s'occupe de faire un peu le résumé de tous les travaux scientifiques qui existent sur le sujet, publie un rapport tous les 4-5 ans et les rapports deviennent à la fois de plus en plus alarmants et de plus en plus précis. Et donc, si les auditeurs regardent dans le GIEC, dans les rapports du GIEC qui ont été faits même il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années, on peut même aller plus loin, eh bien, on voit une augmentation exponentielle des vagues de chaleur, de leur intensité, on va dire de tous les effets du dérèglement climatique. Et je voudrais terminer en disant que ce qui est le plus dramatique, c'est que les grandes industries pétrolières des années 70 et 80, Shell et d'autres, Exxon avait commandité des rapports de scientifiques et donc étaient elles-mêmes très au courant, il y a déjà une petite cinquantaine d'années, des effets dramatiques de leur activité sur le climat de notre planète.
Alors, il y a quand même des météorologues, Jonathan, qui disent que le dôme de chaleur n'est pas dû au réchauffement climatique. Vous vous insurgez là-dessus ?
Écoutez, je pense qu'il y a une communauté scientifique, il y a une manière de faire de la science. Et il y a une tendance qui existe à la fois un petit peu aux États-Unis, mais je l'ai vu aussi peut-être un petit peu en toutes sortes de théories de la conspiration. Il y a une manière de faire de la science. Voilà, on peut pas prendre n'importe quelle. C'est-à-dire, je peux aussi venir et dire que toute la théorie de Newton sur la gravitation, la pomme ne tombe pas, elle fait tout à fait autre chose. C'est un peu de cet ordre-là, parce que les mécanismes qui sont derrière le dérèglement climatique, ils sont facilement explicables, ils sont facilement compréhensibles. On peut les reproduire, on peut au moins reproduire certains en laboratoire. Et également en modélisation. Donc on a ici un ensemble de choses qui font que ce n'est pas très sérieux. Cependant, il faut bien sûr toujours faire la distinction entre, on va dire, la météo et le climat. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait et qui dirait « oui, mais vous savez, il y a déjà eu, par exemple, vous avez cité Phoenix, vous avez dit 59 ans, il y a eu à Phoenix, il a fait plus chaud il y a 100 ans, c'est très bien. Dans différents endroits de la planète, il a pu faire plus chaud, même dans un passé relativement récent. Cependant, quand on regarde les tendances grosses du climat, et pas de la météo, c'est-à-dire l'ensemble des moyennes, on voit qu'il y a une tendance très claire, oui. À la fois au réchauffement, à la fois au dérèglement, et ce n'est pas un événement. Encore une fois, on ne peut jamais dans ces cas-là juger un événement précis, mais on doit voir l'ensemble des tendances et tout ce qui se passe sur l'ensemble du globe, et puis sur un espace de temps aussi, sur une durée de temps assez importante.
Bien sûr. Alors, quand est-ce que ça va redescendre, Jonathan, et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter ?
Alors, quand est-ce que ça va redescendre ? Simplement, je n'en sais rien. Il y a eu une vague, je vous dis, la semaine dernière en Chine, il y a une vague qui a duré, à mon avis, je crois, plus de 3 semaines, donc ça peut être très, très long. Et dans ce cas-là, je n'ai pas encore vu qu'on voyait le bout du tunnel de cette vague de chaleur, mais bon, elle finira par baisser. Alors, ce qui est très important, finalement, et c'est à la fois au niveau individuel et également au niveau politique, c'est de comprendre qu'on n'est pas seulement dans une idée de réduire l'impact du réchauffement climatique, mais on est aussi dans une idée de s'adapter, et donc d'avoir à la fois des comportements et des politiques qui savent s'adapter. Donc, bien sûr, je pense que vous voyez, d'ailleurs, je vous rappeler l'immense vague de chaleur en 2003 avait fait à peu près en Europe une surmortalité de 70 000 personnes. Oui. La vague de chaleur de 2022, donc de l'année dernière en Europe, a fait une surmortalité de 62 000 personnes. Alors on vous dirait que c'est quand même important, mais il faut savoir que cette vague de chaleur de 2022 était beaucoup plus importante que la vague de chaleur de 2003. Simplement, on était beaucoup plus prêts. Et donc, c'est en fait cette préparation. Il est possible de vivre dans un climat plus chaud. C'est notre réalité. Il faut savoir s'y adapter. Et il faut savoir également adapter l'ensemble de l'économie. Et il faut surtout adapter l'habitat. Il faut adapter vraiment, il y a toute une série de domaines. Donc en fait, c'est cette idée d'adaptation. À part ça, restez à l'ombre et arrosez-vous bien. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner.
D'accord. Et pour finir, en Israël, Jonathan, est-ce qu'on fait suffisamment pour justement s'habituer ou pour lutter contre ces vagues de chaleur ?
Alors en Israël, il y a effectivement un plan national d'adaptation au changement climatique et le ministère de l'Environnement qui est très volontaire et volontariste sur cette question. Malheureusement, sans budget, donc c'est pas très réaliste. Je vous donne comme ça une petite information très sympathique, mais en même temps qui fait un peu peur. Je vais vous dire que on a vérifié qu'à cause de la façon dont dont certaines villes sont planifiées. Alors par exemple à Bnei Brak, qui est une ville mal planifiée par rapport aux questions climatiques, il fait 7 degrés de plus que juste à côté.
Ouais.
Donc vous imaginez l'impact de cette planification. Parfois, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Malheureusement, dans Israël, tout autre, bien sûr, toutes sortes de différents projets, mais dans ce domaine précis, qui est le domaine du climat, Israël est en train d'ouvrir les immenses territoires de sa zone économique exclusive en Méditerranée à des recherches de gaz et de pétrole, et d'immenses compagnies comme Chevron, BP, Total, je crois aussi, sont en train de rentrer dans le jeu et de transformer la mer israélienne en un immense champ pétrolifère. Donc, on va dire que le réchauffement climatique, les gouvernements, aussi bien celui-ci que le précédent, que celui qui a précédé le précédent, non, c'est pas une question sérieuse pour eux. Ils en ont un peu rien à faire, quoi. On va dire ça.
Eh ben, c'est dommage pour la vie quotidienne des gens. Merci.
C'est dommage pour la vie quotidienne des gens, oui.
Ouais. Merci beaucoup, Jonathan Akenbaum, directeur de Greenpeace Israël. Une bonne journée à vous et on espère qu'on aura tous moins chaud.
Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.